Deutsche Welle, magazine environnement.
Content de vous retrouver et merci de nous rester fidèles. Une nouvelle année, de nouveaux sujets et de nouveaux engagements sur le plan environnemental. Pour cette première édition de l'année, nous parlerons entre autres de la sécheresse qui sévit en Afrique du Sud. Et comme invité, Luc Nyakadia, il est l'ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Cette nuit où on voit que des gravillons et on a l'impression qu'il ne reste plus rien, celui qui a les yeux pour voir au-delà du physique et qui sait que si je fais ce que je sais faire, si je le fais bien, cette terre peut revivre et me nourrir. Entre celui-là et celui qui ne sait pas, il y a une différence, le fait de savoir. Et ça fait que celui-là reste pendant que celui qui ne sait pas ou qui n'a pas envie de travailler dur, lui, il entreprend un voyage qui parfois finit dans les sables du désert ou au fond de la Méditerranée.
Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevit Yassou au micro. Tout comme 2017, 2018 a commencé avec des faits climatiques. Au Canada et aux États-Unis, si c'est le froid qui inquiète, en Allemagne, c'est l'inondation dans certaines régions. En Afrique du Sud, la situation est plus alarmante avec la sécheresse. Conséquence, la ville touristique du Cap est touchée par des coupures d'eau et les autorités ont mis en place de nouvelles régulations entrées en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Désormais, la consommation d'eau est limitée à 10 500 litres par foyer. Plus de précisions avec Anne Letouzé.
Alors que la ville du Cap est à deux pas de l'Atlantique et de l'océan Indien, elle connaît la pire sécheresse de l'Afrique du Sud depuis des décennies. Les autorités ont averti que le jour zéro en eau de la ville pourrait arriver plus tôt que prévu. Il avait été prévu pour le 18 mars 2018. Cette situation a amené les autorités à prendre des mesures radicales, comme la restriction d'eau dans les industries, les exploitations agricoles et même dans les maisons. Pour la conseillère municipale Chantea Lindberg, les mesures idoines d'économie d'eau ont été prises et les résidents n'ont d'autre choix que de s'y conformer.
Eh bien, nous avons fait des annonces publiques, nous avons identifié les 20 000 meilleurs utilisateurs et nous avons publié les noms des 100 meilleurs parmi eux. À l'avenir, nous poursuivrons l'application de la loi en émettant des amendes et des avis de comparution devant les tribunaux afin de maintenir notre approvisionnement en eau et éviter les gaspillages.
Ces mesures ont pesé sur l'ensemble de la population de la ville. Pour Lucie Mazoui, résidente du Cap et mère de famille, la pénurie d'eau a complètement bouleversé son mode de vie à la maison.
C'est l'eau utilisée par la machine à laver que je recycle dans les toilettes. Et c'est l'eau qui a servi à laver ma vaisselle le matin que je garde encore pour laver la vaisselle le soir. Je fais tout pour économiser un peu d'eau. Ça ne suffit plus pour des cours de natation et autres.
Selon Terry Winstantley, spécialiste en droit de l'environnement, la ville manque d'options et une solution scientifique s'impose.
D'après ce que je comprends, les pronostics à long terme sont que la ville peut s'attendre à recevoir moins de précipitations que par le passé. Une autre solution possible serait des usines de dessalement mobile qui pourraient répondre à nos besoins à court terme.
La municipalité du Cap dit avoir déjà élaboré un plan à mettre en œuvre une fois le jour zéro passé. 200 000 points de réserve d'eau seront créés à travers la ville. Mais les experts ne sont pas d'accord sur les causes exactes de la pénurie d'eau cette année. Alors que certains soulignent le phénomène de la sécheresse et du changement climatique, d'autres pointent du doigt la forte démographie de la ville.
Cela fait des mois que les habitants de la ville du Cap sont incités à économiser l'eau autant que possible et les touristes qui sont nombreux à visiter la ville cette période de l'année sont également prévenus.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
La sécheresse qui sévit en Afrique du Sud vient confirmer une étude publiée le 1er janvier dernier. Et d'après cette étude, au moins un quart de la surface de la Terre deviendrait considérablement plus sèche, même si l'objectif de maintenir le réchauffement en deçà de 2 degrés Celsius est atteint. Or, quand les terres deviennent plus sèches, la dégradation des sols et la désertification s'accélèrent, tout comme la perte de biodiversité. Mais pour Luc Nyakadia, ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la dégradation des terres n'est pas une fatalité.
Et les populations l'ont comprise et la technologie qu'ils utilisent ici, ou les techniques de gestion durable des terres, sont des techniques qui sont nées ici et qui sont devenues maintenant fameuses dans le monde. On appelle ça la régénération naturelle assistée. On voit que les populations l'ont intégrée. Elles ont compris que même ceux qui, ici par exemple, n'avaient pas la terre, on peut trouver un deal avec ceux qui ont la terre, mais une terre qui ne servait à rien. On peut trouver un deal pour que ceux qui savent régénérer la terre dégradée et ceux qui ont la terre dégradée se mettent ensemble pour redonner vie à la terre ici. C'est vrai, c'est très dur comme travail. Mais entre ça et l'obligation ou ne pas avoir le choix que de migrer et de devenir un sans-domicile fixe dans une ville ou éventuellement d'entreprendre le voyage à travers le désert, c'est clair. Maintenant, il y a un ingrédient ici dont on ne parle pas souvent. C'est ce qui fait que les gens décident de restaurer, de rester, de restaurer plutôt que de partir.
Et selon vous, c'est quoi?
C'est l'espérance qui naît du fait que l'on sait qu'il y a un potentiel dans cette terre dégradée. Cette terre nue où on voit que des gravillons et on a l'impression qu'il ne reste plus rien. Celui qui a les yeux pour voir au-delà du physique et qui sait que si je fais ce que je sais faire, si je le fais bien, cette terre peut revivre et me nourrir. Entre celui-là et celui qui ne sait pas, il y a une différence, le fait de savoir. Et ça fait que celui-là reste pendant que celui qui ne sait pas ou qui n'a pas envie de travailler dur, lui, il entreprend un voyage qui parfois finit dans les sables du désert ou au fond de la Méditerranée.
Pensez-vous qu'ils sont suffisamment soutenus pour continuer ce travail?
Il faut les soutenir non seulement en veillant à ce que ceux qui savent parlent et enseignent et passent l'information et le savoir-faire à ceux qui ne savent pas. Il faut les accompagner avec des éléments qui leur permettent de traverser la soudure entre le moment où on commence ça et le moment où on commence à avoir quelques retours sur investissement. Il se passe un temps. Pendant ce temps-là, il faut pouvoir les soutenir, les accompagner pour qu'ils puissent vivre et avant que le retour sur investissement, les premiers, puisse se faire. Il faut les accompagner pour la transformation des produits.
Selon une étude publiée dans la revue Science fin 2017, la désertification et les changements climatiques pourraient quasiment tripler le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne d'ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre conservaient leur rythme actuel. Un afflux migratoire qui pourrait avoir des effets déstabilisateurs. L'ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Luc Nyakadia, appelle de son côté à une prise de conscience.
J'ai vu que le Niger est l'un des cas en Afrique où le cadre national stratégique d'investissement sur la gestion durable des terres est un cadre qui a été intégré aux politiques publiques et que chaque fois qu'il a fallu réagir sur les investissements, ce cadre a été pris en compte. Donc il y a au Niger, mieux qu'ailleurs certainement, cette intégration dans les politiques publiques. Maintenant, il y a un défi qu'il ne faut pas perdre de vue. Sur les 3-5 dernières années, l'investissement du Niger en matière de défense pour la lutte contre le terrorisme, le budget qui a été affecté à ça, a été multiplié par 3 voire par 4. Maintenant, il faut imaginer comment est-ce que des activités comme celle-ci permettent de prévenir les crises et permettent de tarir les terreaux pour le terrorisme et avoir le courage, y compris non seulement le Niger, mais ses partenaires au développement, avoir le courage aussi pendant qu'on essaie de contrôler, de réduire le terrorisme, qu'on essaie aussi, qu'on fasse en sorte, j'aime pas beaucoup le mot essayer, qu'on fasse en sorte de régénérer les terroirs qui, si ces terroirs deviennent très dégradés, deviennent aussi des terreaux pour le terrorisme. Et c'est en cela que l'action qu'aujourd'hui on observe sur les questions sur les conflits, sur les migrations. J'espère vraiment que ceux qui en parlent, qui s'en préoccupent, vont regarder les potentialités qu'il y a ici pour attaquer les questions à la racine.
Mais certains paysans qui font de la récupération des terres dégradées leur travail quotidien ne sont pas suffisamment soutenus, même sur le plan financier.
Il suffit de retourner en arrière, 2007-2008. Moi, j'ai fait voyager des paysans burkinabés, nigériens pour aller à des conférences et parler à des ministres. Et c'était le conférencier principal, c'était un paysan qui ne parlait aucune des langues des Nations Unies. Donc aujourd'hui, nous sommes ici parce que ces choses-là ont commencé à prendre racine. et je m'en réjouis. Aujourd'hui, nous parlons de la neutralisation, de la dégradation des terres. Je m'en réjouis. Mais le regret ne suffit pas et ne sert pas. Il faut regarder maintenant comment on porte à l'échelle ce qui se passe ici. Les initiatives qui fleurissent en Afrique doivent amener les autorités publiques à apporter le leadership qui est nécessaire, la coordination qui est nécessaire. C'est une exigence. Si les politiques publiques ne permettent pas de capitaliser ça, dans ce cas, ce sont des politiques publiques qui ont failli. Si les institutions qui doivent faire ça ne le font pas, elles ont failli. Parce qu'en réalité, ceci...
Et beaucoup d'institutions ne le font pas.
Oui, c'est pour ça qu'il faut les amener à voir. Et en même temps, pouvoir traduire ceci dans le langage des ministres des Finances et du Plan. Dire que quand on régénère une terre comme celle-là, sur un dollar investi ou sur un franc CFA investi ici, on a un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 5 francs CFA sur 5 ans. Quel business fait autant ? Et on doit pouvoir capitaliser le retour sur investissement écologique, social, sur la sécurité alimentaire, sur l'émigration ou les migrations évitées, et ainsi de suite. Donc, et calculer ça. Si dans un pays comme le Niger, je connais le cas du Bénin, le coût de la dégradation des terres, c'est 8% du PIB. Par contre, l'éviter, c'est une petite fraction de ce montant-là. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en train d'être anémié et ne s'en rend pas compte. Et il faut pouvoir se lever et faire en sorte que ces coûts-là, le coût de l'inaction, soit porté à l'attention des ministres du Plan et des Finances, pour qu'ils se rendent compte qu'ici, il ne s'agit pas de faire un programme de gestion durable des terres à part. Non, il faut que dans toute démarche, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour le pastoralisme, on tienne compte plutôt du potentiel de régénération des terres. Et que chaque fois qu'on a besoin de nouvelles terres, au lieu d'aller déforester, qu'on aille plutôt régénérer des terres qui ont ce potentiel-là, en même temps qu'il faut donner la priorité à la dégradation évitée.
Luc Nyakadia, ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Selon des scientifiques, entre 98 000 et 660 000 demandes d'asile supplémentaires pourraient être déposées chaque année dans l'Union européenne d'ici 2100. Et tout dépend du niveau de hausse de la température mondiale. Merci de nous avoir suivis. Kosevitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.